du père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 16 septembre 1996. Première conférence.
Session de rentrée.
J'ai oublié hier de vous dire que selon les traditions d'ici, on n'arrête pas au milieu du cours. C'est mieux. Au début, on laissait libre. Puis alors, on a vu que c'était toujours quelques-uns qui tenaient le crachoir. Et les autres trouvaient que c'était un petit peu trop. Parce que c'est comme ça, il y en a qui ont ce charisme particulier de toujours interroger et de toujours revenir sur les mêmes questions. C'est le charisme de répétition. Alors, on a pris cette décision de ne pas s'arrêter pendant le coup, mais de noter par écrit les questions qui pouvaient se poser. Oui. L'avantage de noter par écrit, c'est que ça arrête la passion, les passions. Devez-vous réfléchir un peu plus quand on écrit sur un petit papier. Mon père vous avait dit cela. Je comprends pas. Pouvez-vous développer ceci? Vous voyez, je crois que c'est important, puisque normalement, le cours doit être un dialogue. Or, on vous demande de mettre une muselière pendant le cours, de se taire, mais de garder au-dedans de vous-même les questions qui se posent et de les noter. C'est comme ça qu'il y a un dialogue. Oui, le dialogue peut manquer, non pas à cause du professeur, mais à cause des étudiants. C'est justement seule manière. Alors je vous le rappelle, ça. Alors nous allons continuer en voyant la troisième sagesse. Et en ça. Vous pouvez, chacun d'entre vous, réfléchir sur ça. Quel ordre, spontanément, vous prendriez? Pourquoi? C'est vrai. J'aurais pu très bien commencer par là. Et quelquefois, c'est un ordre historique. Ça a commencé comme ça. Oui, l'ordre historique n'est pas toujours l'ordre génétique. C'est l'ordre de la croissance, c'est l'ordre du devenir et l'ordre de l'être. La distinction fondamentale au point de vue philosophique, c'est de découvrir un ordre du devenir et l'ordre de l'être. Et cet ordre-là peut se comprendre de deux manières différentes. Est-ce que vous êtes plus proche du devenir ou de l'être? Or, ce n'est pas la même chose du tout de regarder une réalité en tant qu'elle est ou en tant qu'elle devient. Et vous avez là donc deux ordres de recherche. L'un qui est commandé par le sensible, le corps. L'autre qui est commandé par l'esprit, l'être. Et on a là deux manières de regarder les choses. C'est très intéressant à se servir de cela quand vous devez faire une recherche. Petite dissertation sur tel ou tel sujet. Bon, vous pouvez prendre un ordre de recherche par le devenir. Vous pouvez prendre un ordre de perfection pour essayer d'éclairer ce qui est imparfait par le parfait. Alors, je réfléchis un instant sur cet ordre que nous avons pris, pour que vous compreniez mieux. Normalement, la sagesse philosophique est une sagesse qu'on acquiert. La sagesse théologique est une sagesse qu'on acquiert. La sagesse mystique, elle est infuse. Elle vous est donnée gratuitement. C'est ça qui est très curieux. Tous les chrétiens qui ont la grâce ont cette sagesse infuse. Une petite Thérèse de l'enfant Jésus a vécu de la sagesse infuse, très vite. Ça lui était donné. 4 ans et demi. C'est pas si mal. Alors, elle n'avait pas du tout la sagesse philosophique. À 4 ans et demi, non. Elle avait plus. Elle n'avait pas du tout la sagesse théologique. Me permet d'entrer dans quelque chose de premières intuitions philosophiques. Et tu sais, premières intuitions philosophiques, ce n'est pas un ordre génétique. Ordinairement, avant ces intuitions, il y a le disciple qui a étudié tel ou tel maître et qui a essayé de comprendre. Celui qui veut entrer dans une philosophie réaliste prend comme maître Thomas d'Aquin, prend comme maître Aristote. L'avantage d'Aristote, c'est qu'il est philosophe. L'avantage de Thomas d'Aquin, c'est qu'il est théologien. Et là, il y a encore deux ordres tout à fait différents. Mais c'est là la complexité de la croissance de l'intelligence humaine. C'est pas simple, c'est complexe. Et on doit être conscient, au point de vue philosophique, de ce qu'on fait, de ce qui nous permet d'avancer. Donc, essayez vous-même de découvrir l'ordre génétique de vous-même ou du professeur. Vous étudiez comment la substance au plan métaphysique est apparue au plan historique. C'est intéressant. C'est plus facile que de dire « Ah, moi, je suis très intelligent. Je vais tout de suite regarder l'ordre de perfection de la substance. » Mais il y a beaucoup de chances que quand vous regardez ce qu'est la substance chez Aristote, vous n'êtes pas au même niveau que lui. Pas tout à fait aussi intelligent. Alors, vous lisez Aristote, le livre Zeta, et vous n'y comprenez rien. Et vous voulez à tout prix comprendre. Alors, vous lisez 50 fois. Puisque Avicenne avait lu 50 fois avant de comprendre. Et c'est vrai, il y a des choses comme ça qu'on doit lire 20, 30 fois, 50 fois avant de comprendre. Alors si on a beaucoup de courage, on y va. Si on n'a pas beaucoup de courage, au bout de la troisième fois, on dit « c'est pas pour moi tout de suite ça ». C'est d'être intelligent dans sa recherche. Il n'y a pas une méthode universelle. D'abord, quand je regarde tous individuellement, je vois que si je pouvais mesurer le degré de votre intelligence, on pourrait mettre à partir des différentes tables tel degré. Alors, dans le fond, le baromètre saute, tandis que là, au premier, là, oui, vous y allez tout doucement. C'est pas commode hein, d'enseigner la philosophie à une telle diversité. Or, c'est nécessaire d'avoir un certain ordre des choses. Vous voyez, il faut. Je crois que c'est propre d'un cours de philosophie. Il faut être conscient de ce qu'on fait, conscient de ses limites, conscient de l'appétit profond qu'on a. Si on ne regarde que ses limites, tout de suite, on regarde tout au point de vue métaphysique, ou au contraire, on regarde tout au point de vue de ce qui est premier, au point de vue génétique, ce qui est plus proche de nous. Alors, l'acquisition de la sagesse philosophique, d'une certaine manière, elle est première. Et d'une autre manière, elle est ultime. Parce que personne d'entre nous ne peut dire qu'il a atteint la plénitude de la vérité philosophique. Non. Mais on peut dire qu'on a atteint certains aspects de la vérité philosophique. Et que d'une certaine manière, atteindre cela, c'est ce qui est plus proche de nous, ce qui est plus comme naturel avec nous. Mais si on est chrétien, on peut dire qu'avant la philosophie, j'avais le don de sagesse, don du Saint-Esprit, qui m'est donné. Alors je pourrais commencer par le don de sagesse, en disant, je parle à des chrétiens. Alors, que ceux qui ne sont pas chrétiens n'assistent pas au premier cours, parce que c'est un langage qui est complètement en dehors d'eux. C'est le don de sagesse. Il faut savoir, je n'ai pas le droit de tout mêler. Je dois distinguer ces trois sagesses. Et d'une certaine manière, si je suis chrétien et que j'ai une vraie vie chrétienne, le don de sagesse m'est donné et s'exerce pour moi. Même si je n'ai aucune sagesse philosophique. Thérèse vivait du don de sagesse, n'ayant aucune philosophie. Et pour bien nous faire comprendre qu'elle n'avait aucune philosophie, Dieu a voulu que le don de sagesse s'exerce dans sa vie, bien avant la philosophie. C'est sûr que le don de sagesse, quand il s'exerce dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, aide énormément mon intelligence métaphysique à s'épanouir. Vous voyez, parce que le don de sagesse me donne l'expérience intérieure du divin. Avoir l'expérience intérieure du divin m'aide énormément à sortir du positivisme. Le positivisme étant, je crois, le mal le plus profond de notre époque. Qu'est-ce que c'est que le positivisme? C'est n'accepter comme connaissance que la connaissance scientifique. Qu'une connaissance scientifique. C'est-à-dire le mesurable. Tout ce qui est mesurable, je l'accepte. Mais ce qui n'est pas mesurable, je l'accepte pas. Or, la qualité n'est pas mesurable. Vous voyez, je prends tout de suite un exemple pour que vous voyez. On distingue, depuis Aristote, et puis quelquefois, on l'oublie et on ne le comprend pas. On distingue, depuis Aristote, les sensibles propres et les sensibles communs. Distinction très importante, difficile, mais très importante. les sensibles propres, par exemple la lumière. Ce que le sens, tel sens particulier, saisit, et qu'un autre sens ne saisit pas. Je saisis la lumière par ma vision. Je saisis la chaleur par le toucher. Distinction qui est très très importante. ce qui est premier. Or, ce qui est premier fait que tous les autres ont en référence avec lui. Et donc, il y a deux ordres différents. L'ordre que vous voyez entre Aristote et Platon. Qu'est-ce qui est premier pour Platon? Qu'est-ce qui est premier pour Aristote? Et ceci fait que pour tout le reste, on retrouve cette distinction. On peut retrouver la même distinction avec les néoplatoniciens. Et on retrouve toute cette distinction-là à l'égard de tous les philosophes. Et donc, la chose première qu'on doit regarder, qui nous permet tout de suite de saisir la différence, c'est de voir chez un philosophe ce qui est premier. Nous le reverrons en métaphysique, ça, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qui est premier? La sagesse philosophique ou la sagesse mystique? Posez-vous la question pour vous. C'est intéressant pour chacun d'entre nous. Si on veut être un tout petit peu lucide sur ce qu'on est, qu'est-ce qui est premier? D'une certaine manière, il n'y a pas de premier absolu. D'une certaine manière, c'est tout ce que nous atteignons par nos sens qui est premier pour nous. Alors, à ce moment-là, c'est la réalité sensible qui est première. D'une autre manière, c'est tout ce qui est saisi intérieurement sous l'action de l'Esprit Saint qui est première et qui est ultime. Alors c'est cela qu'on doit essayer de comprendre. Or, la connaissance mystique qui relève du don de sagesse, don du Saint-Esprit, dès que je suis en état de grâce, dès que j'ai en moi la grâce chrétienne, j'ai en moi la capacité de saisir la réalité mystique immédiatement, c'est-à-dire la présence de Jésus en moi, la présence de Marie en moi. Cette connaissance que j'ai de l'amour divin, c'est quelque chose d'intérieur. Je ne touche pas ça avec ma main. Je ne touche qu'intérieurement. Donc, la sagesse mystique, don du Saint-Esprit, me donne une connaissance propre que celui qui n'a pas la foi, que celui qui n'a pas l'espérance et la charité ne peut pas avoir. Alors il le refuse. Quand un positiviste vous dit froidement « n'existe que ce que la science peut atteindre et que tout le reste choses qui existent, c'est les choses que je peux palper, que je peux toucher, que je peux mesurer. L'expérimentation qui me permet de refaire cette expérience. Et tout ce qui relève de la mystique, oui, c'est imaginatif. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Alors, il croit que qu'il est en présence de Dieu, de la Vierge Marie. Il y a une statue qui lui sourit tout le temps. Et les autres personnes qui passent devant ne voient pas ça. Alors, vous voyez, le passage entre l'imaginaire et le mystique n'est pas toujours très commode. Des gens très poètes, qui ont une imagination fertile, peuvent très bien confondre ce qui est imaginaire de ce qui est mystique. Des psychanalystes chrétiens voudraient qu'on leur donne des recettes pour bien distinguer l'imaginaire du mystique. Ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter toute une année avec des psychanalystes pour discerner le point de vue imaginaire et point de vue mystique. Dans des cas concrets, un pauvre type qui est dans les mains des psychanalystes, parce que c'est jamais drôle d'être dans leurs mains, c'est pas une béatitude. Plutôt la dernière béatitude du XXe siècle, c'est de ne pas avoir été psychanalysé. Pas avoir éprouvé le besoin. avez affaire vraiment à quelqu'un qui a le sens des réalités spirituelles, des réalités divines, de quelqu'un qui est purement imaginaire et quelquefois qui perd un peu les pédales. C'est pas si commode que ça. Faut pas juger trop vite, ne jugez pas selon les apparences. Même si c'est difficile de discerner le don de sagesse, l'exercice du don de sagesse, de l'exercice de l'imaginaire, d'un imaginaire très subtil, d'un imaginaire qui nous met en présence de quelque chose des mortels, voir la différence entre quelqu'un qui dit avoir une apparition et qui ne l'a vraiment, et quelqu'un qui dit avoir une apparition et qui ne l'a pas du tout. C'est imaginaire. Mais on entre dans un domaine qui est toujours très subtil et dans lequel on ne doit pas se laisser séduire trop vite. Mais il ne s'agit pas d'être sceptique. C'est-à-dire, ça n'existe pas, ça existe. Et quand Dieu vous a mis en présence de quelqu'un qui vit des dons du Saint-Esprit, vous êtes bien obligé de le reconnaître. La petite Marthe, Romain, c'était net qu'elle ne vivait pas d'imaginaire et qu'elle était mue par l'Esprit Saint. Est-ce que ce qu'elle pouvait dire, étant mue par l'Esprit Saint, apparaissait vraiment comme quelque chose d'un autre ordre? Et c'est pour cela que Marthe disait, un jour elle me l'a demandé, pourriez pas m'exposer en théologien les trois sagesses. Alors je vais exposer plus rapidement qu'ici les trois sagesses. Alors, j'avais affaire à quelqu'un qui avait une grande expérience de la sagesse mystique. Et Marthe, alors, elle ne me l'a pas dit à moi, elle l'a dit au Père Finet. C'est merveilleux la distinction des trois sagesses. Elle ne l'avait jamais entendue. Elle dit c'est merveilleux parce que ça met tout en ordre. J'ai bien aimé cette expression de Marthe. Ça met tout en ordre. C'est vrai, la sagesse est principe d'un ordre. Et c'est peut-être cela qui nous montre le mieux ce qu'est cette sagesse. Parce que l'ordre est le fruit de la sagesse. Elle est source de sagesse, l'ordre. Elle provient de la sagesse. Or, la sagesse mystique a son ordre, qui n'est pas l'ordre de la sagesse philosophique, qui n'est pas l'ordre de la sagesse théologique. Et c'est peut-être là où on peut discerner ce qui caractérise cette sagesse. Et le caractère de cette sagesse dont du Saint-Esprit est source d'un ordre. Tandis que l'imaginaire n'est pas source d'un ordre. L'imaginaire, c'est chaotique. Ce n'est pas du tout source d'un ordre. La sagesse, don du Saint-Esprit, est source d'un ordre. D'un ordre intérieur. de l'ordre d'amour. Qu'est-ce qui caractérise le don du Saint-Esprit, le don de sagesse? C'est justement d'être source d'un ordre divin. Amour vivant. intelligence me rôde de manière personnelle avec l'action de l'Esprit-Saint, avec l'action du Christ, du cœur de Jésus, avec l'action de l'attraction du Père. C'est une activité trinitaire. Elle est toujours trinitaire, mais elle est plus liée au Père, au Fils ou à l'Esprit-Saint. Espèce de jeu divin entre les trois personnes. Alors c'est l'accent mis du côté d'une activité qui relève du Père, d'une activité qui relève de l'Esprit-Saint ou du Christ. Il y a trois modalités différentes. C'est le don de sagesse.